Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. À nouveau ensemble pour la suite du roman de Jean-Claude Izzo, Les Marins perdus. Diamantis sentit le souffle chaud de Mariette près de son épaule. Elle s'était déplacée en silence. Il ouvrit les yeux. Elle le regardait. Ses seins, gros et ronds, tendaient le tissu de son maillot. Diamantis pensa à une infinie variété de fruits, ananas, mangue, pomme, grenade. Il en eut le goût sur les lèvres. Il roula sur le ventre pour cacher son érection. « On va manger un morceau, je t'invite », elle dit. Elle connaissait une petite pizzeria sur le port de la Ciotat, l'Escalet. Ils longèrent les quais, bras dessus, bras dessous. « Ça ne te gêne pas si je te donne le bras ?» elle lui avait demandé. « Non, ça ne le gênait pas. » Il aimait ça, Diamantis, savoir une femme à son bras, sentir ce moment où les pas s'accordent, complices. « Tu vois, » fit-elle, en désignant l'autre côté du quai, là où se dressaient d'immenses portiques, des ponts basculeurs, des grues, « tout ça c'est fini. Un jour on aura oublié qu'ici on construisait de magnifiques bateaux. Tous cherchent comment tourner la page, ceux qui ont travaillé au chantier. Leurs femmes, leurs enfants aussi. Tous ceux qui s'y installent aujourd'hui et qui ne veulent pas savoir. C'est à Athènes qu'on les construit maintenant, d'aussi gros que le France. Ah ouais, elle dit, tristement. C'est dommage qu'on n'en fasse plus ici. Ce port, il ressemble à rien sans bateau. C'est pas vrai, elle se reprit. Je l'aime bien comme ça aussi. Il s'était arrêté. Il eut envie de passer son bras autour des épaules de Mariette, mais il ne le fit pas. Combien de ports connaissait-il qui sombraient dans l'oubli ? Il y avait de moins en moins de ports, de moins en moins de bateaux et de moins en moins de marins. C'était comme ça partout. Il n'avait pas d'opinion là-dessus. Il constatait, c'est tout. Sans le moindre pincement de cœur, il avait le sentiment qu'un monde s'achevait. Son monde à lui. Oui, que le siècle allait tourner la page. Lui, il était dans la page qu'on tourne. Dans cet autre siècle, on en oubliera jusqu'au nom même d'Ulysse, pensait-il. Il se souvint que son père, dans ses lettres, se référait exclusivement à l'Antiquité. « Nous passons les portes d'Hercule, la pointe où mourut Anté. » Qui saura dire demain en quelle île, avant l'océan, habitait Calypso, qui séduisit Ulysse sans pouvoir le retenir. Curieusement, c'est de cela qu'ils parlèrent. Mariette et lui, tout en mangeant. Du monde ancien, pas du monde nouveau. Comme si l'un et l'autre avaient conscience qu'ils étaient sans avenir, ou plus justement, que leur avenir était dans ce passé qui filait entre leurs doigts. Il s'était installé sous les vieux platanes de la terrasse de l'Escalet. Mariette avait commandé une bouteille de rosée des coteaux d'Aix-en-Provence, du domaine Lacoste. Léger et fruité. Et une énorme pizza, moitié mozzarella, moitié figatelli. Mariette avait interrompu ses études de lettres lorsqu'elle avait été enceinte de Laure. Quand elle songea à s'y remettre à l'entrée en maternelle de Laure, Régis, son mari, mourut. Une crise cardiaque un matin, en se rasant. Elle l'avait trouvé raide, sur les carreaux de la salle de bain, en revenant d'accompagner Laure à l'école. Il lui avait fallu oublier, assumer, vivre. Elle avait repris l'agence immobilière de Régis et s'était lancée à fond dans les affaires. Elle y réussissait, pas mal du tout même. Lui avait confié Toinou avec fierté. Encouragée par l'attention que Mariette lui portait, Diamantis se laissa aller à parler de sa passion pour les cartes marines et les ports. L'origine du port, lui expliqua-t-il, nous découvre sa vertu. Selon qu'il a été ouvert par un fleuve, choisi par la côte et l'arrière-pays, ou simplement voulu par la mer elle-même. Ils parlaient, et leurs yeux se caressaient. Sous la table, le genou de Mariette se pressait contre le sien brûlant. Mais ni l'un ni l'autre n'avait envie de faire le geste, ne serait-ce même que de l'esquisser. Qui romprait le charme de leur tête-à-tête. Tu vois, c'est la manière dont il peut être approché qui détermine la nature d'un port, qui le détermine vraiment. L'Atlantique ou le Pacifique sont des mers de distance, la Méditerranée une mer de voisinage, l'Adriatique une mer d'intimité. Et la mer Égée ? Il sourit. La mère de l'amour, il eut envie de répondre. Celle qui enfanta les mythes. Tu sais, Homère est né dans une île pas loin de la mienne. L'île de Kio, oui, je sais. Tu es né à Psara alors. Il fut surpris. Peu de gens connaissaient Kio, encore moins Psara. Tu connais ces îles ? Elle secoua la tête et ses cheveux, captant les rayons de soleil, s'embrasèrent, virèrent presque au roux. Par les livres seulement, j'ai jamais quitté Marseille. Tu en as jamais eu envie ? Moi, personne ne m'a invité à aller ailleurs, même pas en Corse. Ils éclatèrent de rire. Diamantis eut envie de lui parler de Psara, mais Psara appartenait à Mélina. C'est son image qu'il retrouvait quand il y retournait. Dans les rues, sur les falaises ou encore dans le val des Poiriers au cœur de l'île, la présence de Mélina emplissait aussi la maison. Les rosiers, les orangers, les bougainvilliers qui ornaient sa cour témoignaient de leur bonheur passé. On ne devait pas toucher à cela, s'était-il dit un matin. Il en avait fait le serment et il n'avait jamais emmené une autre femme à Psara. Un soir, peu avant qu'il ne parte pour la Spezia, il avait retrouvé dans une valise en bas d'une armoire des vêtements oubliés par Mélina. Il savait conserver son odeur. Une de ses robes, plus particulièrement. Son ventre se noua et il eut comme un vertige. Il s'était endormi, le visage enfoui dans le tissu, à respirer ses effluves. Au réveil, il ne se rappela pas ses rêves. Seulement une phrase lue dans un livre et qui remontait à la surface de ses pensées comme le corps d'un noyé. « Il y a du malheur à ne point aimer. » On leur apporta le café et l'addition. Autour de Diamantis et de Mariette, soudainement, la vie avait repris ses droits. Voitures, autobus et mobilettes allaient et venaient, coups de klaxon intempestifs, moteurs emballés, cris. Ils n'étaient plus que tous les deux attablés sous les platanes. Mariette regarda discrètement sa montre. « Tu as d'autres rendez-vous ?» il demanda. « Ben, faudrait que j'aille à l'agence. Tu vas faire quoi après ?»« Moi, je dois retrouver Nedim, un des marins qui est revenu sur le bateau, un service à lui rendre. Et après ?» Après, il voulait passer au Mas. Ce restaurant que lui avait indiqué Matseto où traînait Amina. Il souhaitait la retrouver au plus vite. Peut-être qu'après, il pourrait repenser aux femmes autrement, sans peur, sans culpabilité. Peut-être même qu'il pourrait envisager sa vie d'une autre manière. Parce qu'au fond de lui, même s'il aimait profondément la mer, il savait qu'il naviguait pour fuir. À force de fuir, on meurt. Il savait ça aussi. Et la mort, il en avait conscience, se rapprochait de lui. Diamantis n'avait pas envie de mourir. La vie était pleine de joie. Mariette en était un merveilleux exemple. Il suffisait qu'elle sourie et que ses fossettes illuminent sa jolie bouille ronde. Je dois... Quelqu'un que je dois retrouver. Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis... Oh, depuis longtemps. Une femme ? Les yeux de Mariette le fouillaient dans le moindre repli de son être. Il n'aimait pas trop ça. Il haussa les épaules sans répondre. Elle sourit. Et encore après ? Toi, tu as une idée derrière la tête. Pas une idée, un désir plutôt. Leurs genoux étaient toujours collés l'un à l'autre. Je ne sais pas, Mariette. Tu viens si tu veux. Tu viens quand tu veux. Je couche l'aure à 9 heures et je n'éteins jamais avant minuit. Passer cette limite, c'est une autre histoire. Mariette déposa Diamantis sur le vieux port, pas loin du grand bar Henri où il avait rendez-vous avec Nedim. Ils avaient roulé sans parler en écoutant un chanteur italien qu'elle avait découvert tout récemment. Gian Maria Testa. La chanson qu'elle préférait, c'était « Comme les onde del mare ». Elle lui traduisit un couplet. Certains soirs ont une couleur indéfinissable entre l'azur et l'amarante, et ils vibrent d'un rythme lent, lent, et que nous qui les attendons, nous savons qu'ils sont prisonniers comme les vagues de la mer. » Mariette connaissait toutes les paroles qu'elle fredonnait. Sa voix était douce. Ils formaient un beau duo, le chanteur et elle, comme les onde del mare, comme les onde del mare. Elle l'embrassa sur la joue. Il sentit le parfum épicé de son corps emplir ses narines. Son baiser aussi était parfumé. Il se demanda quel goût auraient ses seins cette nuit, ananas, mangue, pomme ou grenade, ou le goût d'un fruit encore inconnu de lui.
L'homme passe sa vie à lancer des amarres, puis quand il est saisi dans le calme du port, pour peu qu'à l'horizon une fumée l'appelle, il regrette à nouveau la liberté des mers. La liberté des mers avec leur solitude qui parleront toujours au sel de notre sang. Plus que le printemps, enchanteur de la terre, tardif et l'alizé pour le cœur qui l'attend. Thank you.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Les marins perdus, Jean-Claude Izot. Nedim fut rassuré en voyant Diamantis entrer dans le bar. Il était près de 6h-20. Cela faisait 40 minutes qu'il était là, attablé devant un demi. Diamantis n'avait pu se résoudre, en quittant Mariette, à rejoindre immédiatement Nedim. Il avait pris le ferryboat et traversé le vieux port, puis il était revenu en flânant le long des quais, attentif à la vie qui grouillait autour de lui. Il avait souri devant un marchand ambulant, un Sénégalais, en constatant que le paquet de cacahuètes grillées valait 1 franc moins cher que le paquet d'amandes. Pourquoi s'était-il demandé ? Mais sans chercher à se répondre. Puis il s'était fait happer par une 50aine de Japonais qu'un quart de tourisme venait de déverser sur le quai. La tête ronde et noire d'un gamin surmonté d'une casquette rouge avait émergé du groupe, bien vite rattrapé par la main de sa mère. Le gamin avait regardé Diamantis, puis lui avait tiré la langue. Une belle langue rose. Il avait encore souri. Plus loin, assis sur un banc face à la mer, de vieux Arabes discutaient avec passion. À leur hauteur, il avait ralenti pour écouter la musique de ces mots incompréhensibles pour lui. L'arabe était une langue qu'il aurait aimé lire et parler. Il n'avait jamais pris le temps de l'apprendre et le regrettait régulièrement. Arrivé au carrefour du quai de Rive-Neuve et du cours Jean Ballard, les mains dans les poches, il avait attendu le feu rouge pour traverser. Sur le trottoir opposé, un jeune homme faisait les 100 pas, une cigarette aux lèvres. Une jolie Antillaise descendit du bus et courut vers son ami. Il avait laissé tomber sa clope pour la prendre dans ses bras. Il l'avait soulevée en éclatant de rire et l'avait fait tourner sous le regard amusé des passants. Elle avait de très jolies jambes et une culotte jaune. Diamantis avait souri une nouvelle fois. Marseille lui allait bien. « Putain, j'étais inquiet, Diamantis. T'imagines, j'ai pas un sou pour payer. Alors si tu venais pas... »« Mais je t'avais dit que je viendrais. »« Ouais, mais bon, t'as vu l'heure. Il y a vraiment de quoi angoisser, non ?» Diamantis commanda 2 bières pression. « Bon, pas la peine de faire de la provocation, » dit Diamantis après avoir avalé une grande lampée de bière. « Je vais y aller seul, au Habana. Toi, tu m'attends ici. »« Ah bon ?» Diamantis ne savait pas encore comment il allait s'y prendre. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il ne voulait pas avoir Nedim dans ses pattes. Il était trop impulsif, imprévisible. « Tu crois que ça va marcher ? On verra. » « Putain, j'espère. C'est que j'en ai besoin de mes affaires. T'as des trucs importants dedans ?» Nedim haussa les épaules. « Non, juste la photo de mon père et ma mère. C'est la seule que j'ai d'eux ensemble. J'aime pas trop m'en séparer, tu vois. » Diamantis regarda Nedim. Ce type le surprenait chaque fois. Il était nature, brut de décoffrage, tendre, sans la moindre pudeur, naïf, sincère, même dans ses mensonges, ses coups foireux. Le pigeon idéal pour toutes les arnaques, surtout si une femme les lui servait sur un plateau. Rien que pour ça, Diamantis eut envie de revenir avec le sac. Il se sentait d'attaque pour ça, gonflé à bloc par la beauté de cette ville et le sourire de Mariette. « J'y vais, » dit-il. « Laisse-moi une clope. » Diamantis en jeta 3 sur la table. Quand il sortit, Nedim croisa les doigts devant son cœur, puis il alluma une cigarette. « C'est pas ouvert, » dit le noir. « Vous êtes Doug ?» demanda Diamantis. « Ouais, » marmonna-t-il surpris. « C'est pourquoi. J'ai à vous parler. Vous êtes flic ?» Sans répondre, Diamantis fit un pas en avant. Doug ne l'arrêta pas. Diamantis entra dans la salle, les plafonniers étaient allumés, ça puait la cendre froide. Une femme était en train de nettoyer les tables. Elle leva les yeux à l'entrée de Diamantis, mais sans s'arrêter de travailler. Doug referma la porte derrière lui. « Alors ?» il demanda. « Je suis un ami de Nedim. Vous voyez qui c'est ? Il doit 900 balles. » Doug n'était plus inquiet. Il fit jouer ses muscles pour les montrer. Il était en débardeur noir moulant et c'était plus qu'impressionnant. « Tu viens payer ses dettes ?» Diamantis ne supportait pas ce tutoiement. Il n'aimait pas non plus les gros bras. « Pardon ?»« Il a une ardoise de 900 balles. Ou tu paies, ou tu te casses. Vous êtes le patron ?»« Il n'y a pas de patron ici. Vous êtes quoi alors, monsieur gros bras ?» Diamantis avait 25 ans d'expérience de ce genre. La seule chose qui désarçonnait ces types, c'était l'aplomb, pas les muscles. Doug l'évalua. Diamantis ne faisait pas le poids. Il lui rendait bien 20 kilos de plus. Un coup de boule et il l'étendait par terre, ce mec. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Une seule baffe, bien allongée, suffirait. Mais on n'est jamais sûr. Et Diamantis se tenait à bonne distance de lui, trop même, les mains dans les poches. Il pouvait avoir un couteau, ce con. Diamantis ne le quittait pas des yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ? Récupérer son passeport et son sac. Vous rigolez ou quoi ? J'ai l'air de rigoler, Doug ?» La femme de ménage s'arrêta, les regarda, puis disparut dans l'arrière-salle. « Ça allait peut-être se compliquer, » pensa Diamantis. Placé comme il était, il ne pouvait voir ce qui se passait sur sa gauche, là où avait disparu la femme de ménage. Il aurait dû rester le dos à la porte. Il s'en voulut pour cette négligence. Il vieillissait, sans doute. « Non, mais... Et moi, je perds le fric. D'abord, c'est pas ton fric. Ensuite, qui te dit que tu vas le perdre ?»« Ah ouais, vous allez me signer une reconnaissance de dette, c'est ça. Exactement. » Doug secoua la tête dans tous les sens, sa manière en lui sans doute de trouver ça complètement dingue. « Non mais je rêve !» il cria. Gabi apparut dans l'encadrement de la porte de service. En apercevant Diamantis, elle se recula vivement. Lui ne la vit pas. Il ne se rendit compte de rien. Occupé qu'il était à ne pas lâcher Doug des yeux. Il se méfiait de lui, même s'il avait marqué des points par le retour au vouvoiement. Un type qui te vouvoie, il te respecte. Il aura du mal à t'envoyer son poing dans la gueule. Lui avait enseigné Hans, le second de l'Alabama. N'oublie jamais ça, petit. Il ne l'avait pas oublié. Il avait aussi appris les nombreuses exceptions à la règle. Il en avait fait les frais au Milord, un bar de Morondava à Madagascar. Juju, elle s'appelait, une entraîneuse. Comme Lala, comme Gabi, comme des milliers partout dans le monde. Et Diamantis s'était fait piéger, comme Nedim et comme tous les jeunes marins. Il lui avait raconté son histoire hier soir à Nedim, son histoire avec Juju, juste pour détendre l'atmosphère. Cette fille, Juju, elle l'avait bousculée alors qu'il sortait du bureau de poste. Elle portait un foulard bleu noué sur des cheveux crépus. Une mini-jupe noire avec une grosse ceinture cloutée et plein de bracelets à ses deux bras. Il y avait cru, Diamantis, à son histoire, à Juju. Sincère à en pleurer, elle ne cherchait pas à coucher, lui avait-elle confié, les yeux larmoyants en buvant un verre de coca. Non, elle cherchait le grand amour, le vrai, le Vazaha, l'homme qui changerait sa vie en l'emmenant là où il vivait et où, forcément, c'était mieux qu'à Madagascar. Diamantis venait d'avoir 22 ans. C'était sa première grande sortie dans le monde. Son cœur battait la chamade. Le coup de chance, il s'était dit. Juju le balada de bar en bar jusqu'au Milord en fin de nuit. L'épouser, non, il n'était pas prêt à ça. Mais lui jurer qu'il reviendrait la chercher, ça oui, il était prêt à le dire, parce qu'il avait sacrément envie de coucher avec elle. Elle était pelotonnée contre lui et lui caressait le torse. Ses doigts étaient fins et doux, ses lèvres passèrent légèrement sur celles de Diamantis, elle les entr'ouvrit, les fit glisser sur son cou, ses joues, son oreille en titillant le bout, puis revint enfin à ses lèvres. Il eut sa langue chaude contre la sienne. Il la serrait contre lui avec amour. Quand il ouvrit les yeux, les consommations qu'on leur avait servies 5 minutes auparavant avaient disparu. Juju fit signe qu'on les serve comme si de rien n'était. C'est là qu'il avait compris. Il réalisa qu'il n'avait même pas goûté ses 2 premières consommations. Il avait protesté. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» avait demandé le serveur. « Ouais, j'ai jamais le temps de boire, mon verre. »« On peut pas tout faire, mon gars, boire et lécher la poire des figues. Elle a commandé, je resserre. T'as rien contre, j'espère. » Juju avait déserté la banquette. Il l'aperçut près du comptoir, une cigarette aux lèvres. Elle regardait, elle attendait. Il vit le coup arriver, mais il ne fut pas assez rapide. Le poing l'atteignit au menton et il s'affala sur la banquette en renversant la table. Le type fut sur lui avant qu'il ne se relève. Il prit un autre coup sur la tempe, il était proche du chaos. Il fut sauvé par l'arrivée de Hans et de 2 autres marins. Ce fut une grande bagarre générale où ils n'eurent jamais le dessus. Les flics y mirent un terme. Il ne revit jamais Juju. Mais belle consolation, il n'eut pas à payer les consommations. Elle nous nique tous, commenta Nedim. Ben ça me rassure, et tu t'es dit, comme moi, que c'est dommage ces coups qui se perdent. Je me suis rien dit du tout, Nedim. J'étais bien content de ne pas m'être fait plumer de 900 balles. Ouais, c'est un point de vue, fit-il, mais sans relever l'allusion. Quand même, Diamantis, ses filles. Diamantis n'écoutait plus Nedim, ne lui répondit même plus. Et il ne lui raconta pas qu'en arrivant à Marseille, il rencontra Amina. Et qu'elle ressemblait trait pour trait à Juju, plus belle encore, parce qu'Amina n'était pas Juju. Elle cherchait vraiment le Vazara. Et c'est lui qui l'avait trompée. Doug ! Une voix de femme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il répondit en se tournant vers la porte de service. Diamantis en profita pour se déplacer légèrement. Une jeune femme venait d'apparaître. Il supposa que ce devait être Lala. La description de Nedim était plus que parfaite. Il avait cru qu'il en avait ajouté, mais non. Lala était une pure merveille. Voilà pour ce soir, donc la suite de ce roman de Jean-Claude Izzo, Les Marins Perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.